extrêmement vitaliste de ses projets d'écriture et renvoie au péritexte de son œuvre publiée où celui-ci se trouve exposé et symbolisé. Cette pratique de l'autobibliographie prospective, pour reprendre une notion forgée par Éric Beaumatin, spécialiste de Pérec, vaut chez Sandrars comme une sorte de signature, campant la posture d'écrivain bourlingueur, polygraphe et graphomane qu'on lui connaît, mais elle suggère aussi une manière hétérodoxe d'appréhender une œuvre par sa dimension potentielle, par le nuage virtuel des livres tour à tour désirés, ébauchés ou renoncés, qui accompagnent, qui secondent son développement. Prenant l'exemple de Balzac, Sandrars s'étonne ainsi, je le cite encore, « qu'aucun érudit ou fin lettré n'ait encore eu l'idée de dresser l'inventaire de tous les projets de livres avortés dont Balzac parle et qui pullulent dans sa correspondance. » Il ajoute, je le cite encore, « un tel inventaire, un catalogue méthodique et raisonné, un atlas, un panorama qui pourrait s'étendre à l'ensemble des auteurs contemporains et que j'intitulerais volontiers « manuel de la bibliographie des livres jamais publiés ni même écrits », ouvrirait des horizons nouveaux sur la chose littéraire. » Fin de citation. Alors, il va sans dire que je souhaite ici m'inspirer d'un tel projet que Sandrars laisse magnanimement et ironiquement aux érudits et fins lettrés que nous sommes ou tâchons d'être. Sans avoir, comme Blaise Sandrars, systématisé dans ses ouvrages la mention de ses livres réputés apparaître, Barthes s'est lui aussi livré à l'exercice de l'autobibliographie prospective et mérite sans conteste d'être tenu pour un écrivain à projet, pour un écrivain du projet. Par là, je veux dire que l'essayiste ne s'est pas contenté d'avoir des projets, chose banale en vérité, et que partagent même les écrivains sans œuvre et autres procrastinateurs de l'art, mais je veux dire qu'il a fait de cette activité protensive un objet d'annonce, de délibération et de théorisation à part entière. Investissant livres, cours, articles et entretiens, trouvant bien sûr un moment d'expression comble avec le grand projet de roman Vita Nova annoncé en 1978, ces projets tiennent tout au long du travail de Barthes une place à la fois saillante et régulatrice. Place que celui-ci a lui-même reconnue dans le fragment plus tard de son autoportrait de 1975, où il désigne cet art, cette manie, il dit, du projet, comme un des traits caractéristiques de sa rhétorique idiolectale et de son rapport affectif à l'écriture. Alors, c'est à l'étude de ce régime particulier de réflexivité protensive, que je voudrais me consacrer ici, dans l'idée qu'il y a là, pour Barthes, une réflexivité heureuse, placée sous le signe épique de l'aventure, de la novation, qui ne va pas sans scrupule et sans heurts, mais que l'auteur a toujours opposé et préféré à l'imaginaire théoriquement coupable, anti-moderne, de la rétrospection. Ce faisant, je ne m'attacherai pas au projet de Barthes en tant que tel, aux œuvres qu'il a désirées et littéralement laissées en plan, ainsi de notre littérature que Claude Coste a présenté les avant-textes ici même il y a quelques séances de séminaire. Je ne me livrerai pas non plus à des conjectures contrefactuelles sur son œuvre possible. Il s'agira plutôt d'analyser le projet sous l'aspect du discours qui le porte, en se concentrant plus particulièrement sur son versant publié, annoncé, adressé. Celui-ci constitue sinon un genre, du moins un lieu rhétorique, à quoi Barthes a donné le nom de prospectus, et dont les formes et les enjeux restent à explorer. Confier ses projets à ses amis, à ses éditeurs, cela va de soi, mais quel sens y a-t-il à en faire part publiquement, à inscrire leurs fantasmes et leurs linéaments dans l'œuvre présente? Une certaine superstition engagerait d'ailleurs au silence en la matière, s'il est vrai qu'on peut craindre, pour reprendre une expression d'Alix Cléo-Roubaud, que raconter un projet l'annule. Barthes a lui-même pu pratiquer et alléguer une forme de clandestinité programmatique, tandis que ses prospectus sont souvent affectés eux-mêmes d'une tendance au brouillage et à l'évitement, qui, si elle perturbe l'annonce du projet, porte aussi et par là même à penser que cette dernière est encore l'indirect d'autre chose. Mais alors, de quoi donc ? Mon hypothèse est que ce micro-genre du projet constitue un lieu privilégié de l'écriture de soi et de l'énonciation théorique dont Barthes travaille conjointement à renouveler les formes au cours des années 70. Impliqué dans la négociation d'une posture d'essayiste-écrivain aux prises avec l'hétéronomie constitutive qui la caractérise, le prospectus participe aussi d'un effort éthique et épistémologique pour redéfinir la méthode du discours intellectuel, la manière, autrement dit, dont se constituent, s'ordonnent et se partagent les objets du savoir. Du grand projet sémiologique de 57, amorcé autour de 57, à l'ultime projet de roman en forme de conversion personnelle, en passant par tous les prospectus sérieux, velléitaires ou incitateurs qui sont égrenés comme ça au fil des ans, il se dessine une certaine histoire virtuelle de l'œuvre barthésienne, où se lit non seulement la variation des livres fantasmés, leur forme, leur thème, mais encore celle des modalités d'affirmation et de délibération publique de cette écriture potentielle. Alors, pour entrer dans la matière, je voudrais dire que si Barthes se distingue aux côtés d'autres écrivains de son époque, qui font l'objet de ma thèse notamment, comme Georges Perec ou Jacques Roubaud, donc si Barthes se distingue par la centralité qu'occupe chez lui la notion de projet dans sa méthode de travail et dans son œuvre publiée, sa démarche est pour autant tout sauf excentrique. Et avant d'entrer dans le vif et dans la lettre des prospectus de Barthes, je voudrais donc commencer par situer l'auteur au croisement de trois grandes manières d'envisager la prospection auxquelles il emprunte diversement au long de son œuvre, ce qui vaut le titre un petit peu farfelu de cette première partie, quelque part entre Diderot, Sartre et Blanchot. En reprenant à son compte le projet saussurien exprimé dans le cours de linguistique générale d'une science sémiologique traitant des systèmes de signes extralinguistiques, Barthes a inscrit son travail dans une perspective qu'on peut dire progressiste ou moderne et qu'on a pu situer dans le sillage lointain des Lumières. Adossé aux catégories et aux méthodes de la linguistique, le projet sémiologique poursuivi dans les années en gros 57-66 suppose en effet une dynamique collective, cumulative et émancipatrice de la connaissance visant à produire une nouvelle forme d'intelligibilité du monde social. De ce point de vue, la théorie du texte promue aux côtés tel quel au tournant des années 70 en appelle certes au décentrement des structures, à la pluralisation du sens et à la libération du signifiant, mais elle reconduit cette manière de se projeter collectivement dans l'avenir à coup de manifeste, et elle continue, dans les termes d'une conception marxienne de l'histoire, de définir le moderne par la rupture souveraine avec l'ordre ancien et par la célébration du nouveau, de la novation. Comme l'écrit Barthes en 73, dans un article sur le peintre Réquichot, être moderne, c'est savoir ce qui n'est plus possible. On sait pourtant qu'au cours plutôt de ces années 70, et en cette même année 73, avec le plaisir du texte notamment, Barthes soustrait de plus en plus sa voix aux doctrines instituées et aux avant-gardes de son temps, au point d'assumer, c'est connu, dans Roland Barthes par Roland Barthes, un imaginaire de la solitude qui se manifestera de manière exacerbée dans Les fragments d'un discours amoureux et plus encore dans La chambre claire sous le signe du deuil. L'avenir en cette fin des années 70 s'envisage donc moins selon le calendrier général de l'histoire des idées que selon le calendrier viager de l'existence intime et des âges de la vie. Alors, une telle prise de vue générale mérite d'être nuancée très fortement, non seulement en raison du problème complexe et abondamment discuté des rapports du structuralisme d'une part, du post-structuralisme d'autre part, avec le progressisme et l'héritage des Lumières, mais en raison aussi de la manière ambiguë et d'emblée marginale qu'a eu Barthes de s'inscrire dans ces mouvements. Les invocations répétées au projet sémiologique, c'est la formule qui revient constamment, les annonces multiples de programmes de recherche, de sciences en constitution, attestent à cet égard un certain enthousiasme scientifique, en même temps qu'elles accusent aussi la dimension précaire de l'entreprise et la situation de porte-à-faux institutionnel qui est celle de Barthes, dont on sait que la carrière s'est faite loin des standards académiques, universitaires. Alors de ceci, je prendrai qu'un exemple, l'avant-propos du système de la mode en témoigne de manière vive, puisque introduisant en 67 un travail mené entre 57 et 63, à une époque où, dit Barthes, la sémiologie était encore une discipline entièrement prospective, c'est sa formule, l'ouvrage, malgré son allure imposante de traité systématique, est annoncé dans cet avant-propos comme un vitrail naïf, comme un roman d'apprentissage déjà daté au regard du nouvel art intellectuel qui est en train de s'ébaucher, Là aussi, c'est la formule de Barthes. Sans transition, donc, l'exploration sémiologique du discours de mode et le programme méthodologique qui l'accompagne passent du statut de pionnier de projet à celui de ruine et de témoignage, tant le temps présent s'éprouve en ces années continuellement sous l'aspect de l'ébauche et de la novation. Alors, dès les années 50-60, cette veine progressiste, dont j'ai seulement esquissé les ambiguïtés, compose avec deux autres conceptions très fortes et antagonistes l'une à l'autre du projet, auxquelles Barthes emprunte à des titres et des degrés divers. L'existentialisme sartrien d'une part, où le concept de projet joue un rôle central, constitutif du sujet et parasynonyme de liberté, et la poétique du livre à venir, développée par Maurice Blanchot d'autre part, qui réinterprète et radicalise les propositions mallarméennes autour du grand projet de livre idéal, architectural et prémédité, pour reprendre la formule de Mallarmé dans sa lettre de décembre 85 à Verlaine, 1885 à Verlaine. Alors, la première préface aux Essais critiques de 64 me semble particulièrement emblématique de ce syncrétisme barthésien dont je voudrais à présent démêler quelques fils. Introduisant à une sélection d'articles courant du brechtisme des années 50 à la sémiologie du tournant des années 60, cette préface se signale par des accents blanchotiens très prononcés. Barthes refuse de rendre compte de l'évolution intellectuelle dont témoigne son recueil, en invoquant une séparation irréductible entre l'écrivain et son œuvre publiée, séparation qui rappelle le nolim elegere et la solitude essentielle des premières pages de l'espace littéraire de Blanchot de 1955. Écrire, dit Barthes, ne peut aller sans se taire. Écrire, c'est d'une certaine façon se faire silencieux comme un mort. Se justifie donc Barthes, célébrant dans l'écriture une activité liquidatrice, séparée, soustraite au temps historique, dit Barthes. Et donc, comme l'auteur du livre à venir, l'essayiste découvre dans le livre lui-même, dans le livre comme catégorie, une catégorie donc aliénante et trompeuse, impropre à saisir le caractère essentiellement dynamique et projectif de l'écriture. Je cite un passage de cette préface où Barthes écrit que le texte matériel, le livre, peut donc avoir, du point de vue de qui l'a écrit, un caractère inessentiel et, dans une certaine mesure, inauthentique. Aussi voit-on souvent les œuvres, par une ruse fondamentale, n'être jamais que leur propre projet. L'œuvre s'écrit en cherchant l'œuvre, et c'est lorsqu'elle commence fictivement qu'elle est terminée pratiquement. On se doute que Barthes parle ici de l'exemple proustien. En refusant de prendre au sérieux le dossier des notes en vue du livre, édité par Jacques Scherer en 1957, Blanchot, de son côté, avait radicalisé l'inachèvement du projet de Mallarmé pour en faire un trait structurel, essentiel de la démarche du poète et de l'écriture elle-même. C'est alors le coup de dé qui, mieux que tout autre texte, donnait à voir, aux yeux de Blanchot, une sorte d'épure du livre, réputé, je cite Blanchot, « sans autre contenu que la présence de son avenir infiniment problématique ». Alors, Barthes relaye donc cette conception, qu'on pourrait dire projective ou autoprojective de l'écriture, qu'il envisagera bientôt sous les auspices du texte. Pourtant, pour manifeste que soient ses emprunts, on ne saurait y réduire la position de l'auteur, même dans cette préface, puisqu'à l'écriture blanchotienne, dont la trame projective est quand même marquée au sceau du désœuvrement, de l'évanescence conjointe du moi et du monde, d'un mourir sans cesse différé, celle de Barthes se place au contraire sous le signe euphorique de l'aventure et de l'épique. Le temps de l'écrivain, dit Barthes, n'est pas un temps diachronique, mais un temps épique. Sans présent et sans passé, il est tout entier livré à un emportement dont le but, s'il pouvait être connu, paraîtrait aussi irréel aux yeux du monde que l'étaient les romans de chevalerie aux yeux des contemporains de Don Quichotte. Alors, pour mesurer la distance entre les écritures potentielles de Barthes et de Blanchot, on peut observer les appropriations contrastées qu'ils font, par exemple, de la figure d'Orphée, puisque, au contraire de Blanchot, pour qui le sens du mythe est aimanté par le regard interdit d'Orphée vers Eurydice, et la perte donc irrémédiable de celle-ci, Barthes, le plus souvent, ne retient du récit que la phase affirmative et heureuse de la remontée des enfers, qu'il fige en tableau. À ses yeux, Orphée vaut avant tout, du coup, comme un héros de l'indirect. c'est-à-dire comme quelqu'un qui domine et médiatise son désir par le moyen d'une technique. Partant, il allégorise ce régime épique et projectif que l'essayiste prête à l'écriture, au point qu'il est permis de dire qu'avec Barthes, pour paraphraser Camus, il faut imaginer Orphée heureux. Alors, le second écart par rapport à Blanchot dont témoigne cette préface tient à l'insistance de l'auteur sur le statut du critique et sur le type d'adresse qui lie celui-ci à son public. Le refus de la rétrospection posé à l'ouverture du texte ne mène pas seulement à cette inscription de l'écriture dans une temporalité projective et épique, comme j'ai dit, que l'on vient d'observer, et qui deviendra chez Ricardou le topos que l'on sait, hein, l'aventure de l'écriture. Il aboutit à la fin du texte, à la revendication déçue, à la quête éperdue d'un statut d'écrivain pour le critique essayiste. Je rappelle ce passage connu. Le critique est celui qui va écrire et qui, semblable au narrateur proustien, emplit cette attente d'une œuvre de surcroît qui se fait en se cherchant et dont la fonction est d'accomplir son projet d'écrire tout en l'éludant. Le critique est un écrivain, mais un écrivain en sursis. Comme l'écrivain, il voudrait bien que l'on croie moins à ce qu'il écrit qu'à la décision qu'il a prise de l'écrire, mais à l'inverse de l'écrivain, il ne peut signer ce souhait. Il reste condamné à l'erreur et donc à la vérité. Alors, s'il tient comme par essence à lire ce texte, hein, à l'écriture d'être son propre projet, cette qualité, on le voit, ne saurait être simplement affirmée ou postulée, hein, comme chez Blanchot, quelque part, mais elle doit encore être socialement reconnue, conquise dans l'ordre de la communication. Pour Barthes, le critique est celui qui, vis-à-vis d'un public avide de réponses et d'engagements mondains, rappelle l'œuvre de l'écrivain à cette dimension prospective, protensive, interrogeante. Le problème, c'est que ce qu'il fait pour l'écrivain, personne ne le fait pour lui, en sorte que sa parole relève en quelque sorte d'un projet au carré, puisque au projet conçu comme dynamique interne de l'écriture s'ajoute celui impossible de sa propre reconnaissance dans le discours de l'essayiste. Alors, il me semble que, c'est une hypothèse, mais il me semble que ce drame de la reconnaissance mérite d'être mis en dialogue avec Sartre, d'autant que Barthes, en ces années, accompagne volontiers le mot « projet », qui est très fréquent sous sa plume, de l'épithète « existentielle », et que le terme lui sert un petit peu à prendre la place du mot d'intention. Hein. Je pense qu'il y aurait des... Enfin, la distinction est intéressante de ce point de vue-là. On sait, en tout cas, que depuis le degré zéro de l'écriture, Barthes a renversé ou déplacé la question sartrienne de l'engagement et de la responsabilité du plan des contenus à celui des formes et de la technique. En soulignant la méprise qui informe la communication littéraire, en présentant le critique comme un écrivain en sursis, en projet, comme un Marcel de la recherche, Barthes retrouve à sa manière ce mouvement toujours déçu qui caractérise la dynamique subjective et identitaire dans la philosophie de Jean-Paul Sartre. Alors, on se rappelle peut-être le drame du sujet décrit dans L'être et le néant, à l'en-soi, contingent et aliéné que sa liberté néantise, le sujet substitue un pour-soi délibéré, mais cette projection n'aboutit pas, ne parvient jamais à la plénitude de l'essence, en sorte que si, selon la formule célèbre de l'être et le néant, l'homme est l'être qui projette d'être Dieu, il faut ajouter que c'est au sens que l'homme est celui qui projette toujours vainement d'être Dieu. On a souvent reproché à Sartre une sorte d'hégémonie, c'est l'argument de Bourdieu qui voit dans cette figure divine un mouvement d'hégémonie de Sartre dans le champ, mais en fait il faut quand même préciser que ce mouvement-là chez Sartre est un mouvement qui est déçu, toujours déçu. Donc l'homme est l'être qui projette toujours vainement d'être Dieu et ne saurait donc s'affirmer ou se choisir autrement que sous le signe du factice et du précaire. Ce pourrait donc bien être en un sens sartrien également que Barthes, au seuil de ses essais critiques et malgré ses distances avec la morale de l'engagement, se présente comme un sujet potentiel, en projet. Pour l'heure, cet éthos clivé de l'essayiste, cette identité interdite, suscite une forme de déploration, mais les lecteurs de Barthes savent qu'une grande partie de son travail consistera par la suite à travailler, à déplacer ce problème pour occuper bientôt de manière plus franche, sous le signe du fantasme, cette position d'écrivain hein, dans le domaine de l'essai, dont on sait que la littérarité, hein, pour reprendre l'expression de Genette dans Fiction et Diction, est conditionnelle. J'en viens à mon deuxième point, qui porte plus spécifiquement sur le Roland Barthes par Roland Barthes, et que je propose de lire donc comme un livre des projets. Donc, à présent, je voudrais me consacrer plus spécifiquement à cette forme de discours prospectif dont j'ai parlé en introduction, ce qui supposera d'observer comment cette notion de projet, centrale, on l'a vu, hein, dans l'imaginaire de l'œuvre et de la création du second XXe siècle, se monnaie dans le discours publiquement tenu par l'écrivain sur ses livres à venir. Roland Barthes par Roland Barthes est, de ce point de vue, un ouvrage incontournable, dans la mesure où l'auteur y a tout à la fois pratiqué et réfléchi cette forme de discours pour en mesurer les enjeux, les raisons, les effets. À quelques pages d'intervalle, vers la fin de l'ouvrage, on trouve notamment trois fragments, hein, plus spécifiquement concernés par cette question, et c'est à eux que je vais m'attacher à présent. Le premier s'intitule « Projet de livre » et consiste en une autobibliographie prospective sous forme de liste introduite par la mention, hein, entre parenthèses, « Ces idées sont de différentes époques ». De fait, aucune date n'est mentionnée dans le fragment, et les 10 projets en sont du même coup affectés d'une double virtualité. Celle d'abord du livre potentiel qu'il désigne, mais encore celle de l'intention de mener celui-ci à bien. Virtualité de l'œuvre en projet et virtualité du projet lui-même. Comme dans les autobiographies de Sandrars, où se confondent livres déjà écrits mais non publiés, projets effectivement en cours, simples ébauches ou fantasmes chimériques, hein, l'expression de Sandrars, c'est les bâtards, les larves et les avortons que je n'écrirai probablement jamais. Donc Barthes cultive ici, lui aussi, comme Sandrars, l'indétermination. Alors, non pas du tout qu'aucun de ces projets ne puisse être sérieux, hein. Par exemple, on retrouve Incident, que Barthes a longtemps pensé, réfléchi à publier. Mais tout se passe comme si ces projets étaient avant tout recensés pour eux-mêmes, pour l'exercice de style, pour le plaisir de l'énumération et du commentaire qu'ils suscitent. Cette pratique mériterait sans doute d'être versée au dossier des rapports de Barthes à l'art conceptuel des années 60 et 70, dossier qu'a ouvert Thomas Clair ici même, lors d'un colloque en 2008 sur Barthes et la philosophie, où il avait proposé une lecture conceptuelle de la préparation du roman. Alors, souvent affilié à ce courant, l'artiste et écrivain Édouard Levé, par exemple, a publié un livre entier, hein, sur le modèle de ce texte, de ce fragment des projets de livres barthésiens. Un livre entier, donc, composé de semblables descriptions, je cite Édouard Levé, d'œuvres dont l'auteur a eu l'idée mais qu'il n'a pas réalisées. Or, s'il semble ici prendre au pied de la lettre le postulat énoncé par les grandes figures de l'art conceptuel, Joseph Kossuth et Sol Lewitt, postulat selon lequel l'idée de l'œuvre, sa proposition, compte davantage que sa réalisation tangible, Édouard Levé s'inscrit aussi dans une filiation littéraire, dans une collection littéraire aussi, POL. L'ouvrage présente certes des idées d'œuvres possibles, mais ces idées sont écrites, disposées dans un ordre signifiant. Elles ne relèvent pas de l'art conceptuel, sans évoquer aussi, par exemple, les nouvelles en trois lignes de Félix Fénéon, et plus largement, la grande tradition littéraire de la forme brève. On se doute qu'il en va de même, et à plus forte raison, pour le fragment barthésien évoqué à l'instant, dont les projets annoncés valent peut-être surtout pour l'autoportrait qu'il manifeste en pointillé, dont la continuité du fragment « J'aime, je n'aime pas ». Dis-moi tes projets, hein, en somme, dis-moi tes projets de livre, et je te dirai qui tu es, je te dirai quel écrivain tu es, quel imaginaire d'écrivain tu as. Telle semble être donc la raison du fragment. Second des trois fragments prospectifs ou méta-prospectifs annoncés plus haut, projet d'un livre sur la sexualité, confirme un tel investissement du projet dans l'écriture de soi. Bien que lui non plus ne présente aucune date, le texte est au contraire des projets de livres très fortement situés. À tout prendre d'ailleurs, hein, il relève plus du biographème que du prospectus. Alors je vous cite très rapidement ce texte. Voici un jeune couple qui s'installe dans mon compartiment. La femme est blonde, maquillée. Elle porte de grosses lunettes noires, lit Paris Match. Elle a une bague à chaque doigt et chaque ongle des deux mains est teint d'une couleur différente de ses voisins. Celui du méduse, plus court, d'un carmin lourd, désigne grassement le doigt de la masturbation. De là, de l'enchantement où me tient ce couple, que je ne puis quitter des yeux, me vient l'idée d'un livre ou d'un film où il n'y aurait ainsi que des traits de sexualité seconde, rien de pornographique. On y saisirait, on tenterait d'y saisir, la personnalité sexuelle de chaque corps, qui n'est ni sa beauté, ni même son air sexy, mais la façon dont chaque sexualité s'offre immédiatement à lire. Car la jeune blonde aux ongles grassement colorés et son jeune mari aux fesses moulées, aux yeux doux, portaient leur sexualité de couple à la boutonnière, comme une légion d'honneur. Sexualité et respectabilité relevant de la même affiche. Et cette sexualité lisible, telle certainement que Michelet l'aurait lue, emplissait le compartiment par une métonymie irrésistible, bien plus sûrement qu'une suite de coquetterie. Il est bien sûr possible de lire ce texte selon le modèle du tract, de l'affiche ou du teaser, mais il demeure que ce qui compte ici n'est pas tant le livre annoncé, relevant de la même virtualité au carré que les projets de livres, pas tant donc le livre annoncé que l'anecdote qui en fait naître le désir, désir lui-même imprégné, ému par l'érotique diffuse qui gagne le compartiment, et sur quoi le fragment d'ailleurs conclut de manière significative. Portrait de l'artiste en projet, tableautin rapportant la naissance contingente d'un fantasme de livre dans la trame du quotidien, ce texte illustre les deux aspects fondamentaux de la poétique du romanesque, alors pratiquée par Barthes. Attention à l'incident, disponibilité attentive aux circonstances d'une part, et d'autre part, effort pour soumettre le discours intellectuel à un régime de distanciation énonciative que pose l'épigraphe du titre, qui est célèbre. Tout ceci doit être considéré comme dit par un personnage de roman. Barthes, autrement dit, annonce moins un projet qu'il ne se saisit de lui pour donner lieu à un fragment de vie, à une pièce de son autoportrait, dotée d'une certaine forme d'autonomie, qui peut en tout cas et doit peut-être être lue aussi pour elle-même. Alors j'en viens maintenant au texte décisif qu'est le fragment plus tard, où Barthes soumet la pratique projective dont on vient de voir deux exemples à un effort de réflexivité. Dans ce texte assez touffu et un peu composite, Barthes procède à un renversement radical, puisque commençant par désigner négativement, péjorativement, l'annonce du livre à venir comme une manie personnelle, presque comme une maladie, et comme une figure récurrente de sa rhétorique d'essayiste, la prolepse, il retrouve dans sa conclusion les thèses para-crypto-blanchotiennes qu'on a vues tout à l'heure, de la préface des essais critiques, et il reconnaît dans ce qu'il appelle ses manœuvres dilatoires, ses redans du projet, il y reconnaît rien moins que l'écriture elle-même. Je le cite encore, « L'œuvre n'est jamais que le métalivre, le commentaire prévisionnel d'une œuvre à venir qui, ne se faisant pas, devient cette œuvre-ci. » Alors, outre les essais critiques et leur exemple proustien, Barthes réfère ici implicitement à Sade Fourier-Loyola, où il avait mis en avant la propension dilatoire de Fourier à multiplier programme et avant-dire dans ses ouvrages. Je cite Sade Fourier-Loyola, « Pris dans les raies du métalivre, son livre est sans sujet. Le signifié en est dilatoire, retiré sans cesse plus loin, seul s'étend à perte de vue dans le futur du livre, le signifiant. » Ainsi donc, le projet comme forme tient-il à la fois d'une écriture classique, c'est la figure de rhétorique, la prolepse, écriture donc lisible, en même temps que de l'utopie du texte. On peut bien sûr voir dans ce retournement une forme de justification, d'ailleurs non moins peut-être rhétorique, ou théorique en tout cas, mais l'ambivalence qu'il instaure me semble surtout caractéristique d'une sorte de manière mineure qu'a Barthes souvent de se faire moderne, puisque en décontextualisant certains concepts ou certains mots d'ordre avant-gardistes, comme ici le signifiant, le texte, en se servant d'eux pour faire voir, Barthes se sert d'eux pour faire voir et sentir autrement des faits textuels ou extra-textuels, des situations qui normalement échappent à la radicalité de ces mots d'ordre modernes. Introduisant dans ce fragment une nouvelle autobibliographie prospective pour illustrer son propos, autobibliographie qui référence cette fois les passages de son œuvre où les projets sont annoncés, ce qui suppose d'une certaine manière un troisième niveau de réflexivité, désolé pour la complexité, donc un troisième niveau de réflexivité et de virtualité pour le statut de ses projets. Barthes souligne dans son texte le fantasme encyclopédique, totalisant et monumental que trahissent nombre de ses prospectus. Je le cite, Ces annonces visant la plupart du temps un livre sommatif, démesuré, parodique du grand monument de savoir, ne peuvent être que de simples actes de discours. Ce sont bien des prolepses. Elles appartiennent à la catégorie du dilatoire, mais le dilatoire, dénégation du réel, du réalisable, n'en est pas moins vivant. Ces projets vivent, ils ne sont jamais abandonnés. Suspendus, ils peuvent reprendre vie à tout instant, ou tout au moins, telle la trace persistante d'une obsession. Ils s'accomplissent partiellement, indirectement, comme geste, à travers des thèmes, des fragments, des articles. L'histoire de l'écriture postulée en 53 engendre 20 ans plus tard l'idée d'un séminaire sur une histoire du discours français. La linguistique de la valeur oriente de son lointain ce livre-ci. La montagne accouche d'une souris ? Il faut retourner positivement ce proverbe dédaigneux. La montagne n'est pas de trop pour faire une souris. Alors, à lire ces lignes qui montrent un Barthes relecteur de soi, relecteur de ses anciens énoncés programmatiques, hein, on a une sorte d'autoportrait dans le futur, dans le passé, on voit comme l'essayiste s'attache à ironiser cette veine progressiste et encyclopédique dont j'ai parlé tout à l'heure et à quoi Mathieu Messager s'est consacré il y a peu de temps ici. Donc, veine progressiste, hein, dont les projets sont réduits ici à de simples actes de discours. Reste qu'en inversant le topos antique repris par La Fontaine de la montagne et de la souris, l'autoportraitiste ne disqualifie pas ses actes de discours, hein, qui pour être creux n'en sont peut-être pas moins impérieux et féconds à leur manière. Dans La montagne qui accouche, au livre 5 des fables, on se souvient peut-être que le fabuliste moquait ses auteurs, annonçant haut et fort des projets emphatiques sans pouvoir s'en tenir à la hauteur. Je cite la morale de l'histoire, enfin de la fable, où La Fontaine écrit « Quand je songe à cette fable, dont le récit est menteur et le sens véritable, je me figure un auteur qui dit « Je chanterai la guerre que firent les titans au maître du tonnerre. » C'est promettre beaucoup, mais qu'en sort-il souvent ? Du vent. » Coutumier du genre, hein, Barthes assume quant à lui la nécessité de tels gestes dans l'économie affective de l'écriture et dans la fabrique de son œuvre. De ce point de vue, le caractère flottant, hein, deux fois virtuel ou trois fois virtuel des projets de livres, trouve ici une forme d'explication. En plus de participer à cette galvanisation, à cette refonte de l'œuvre passée dans le creuset du texte présent visé par le dispositif, hein, du Roland Barthes par Roland Barthes, il témoigne aussi pour la manière dont les textes s'écrivent. Ils prennent place, ces projets, dans la continuité des usages prospectifs ordinaires, de cette compulsion de programme que Barthes confesse dans la gestion de son emploi du temps et de ses protocoles d'écriture. Au geste tapageur de l'annonce succède donc le mouvement indiscernable, succède ou plutôt s'ajoute, hein, le mouvement indiscernable par lequel ces projets trouvent une réalisation indirecte, restent vivants, actifs, ou on pourrait dire irradiants, à la manière de cette pile atomique Zoé 33 de Blaise Sandrars, hein, en quoi il avait vu, il avait désigné dans le texte que j'ai cité au début l'allégorie de ses projets. Hein, mes projets, c'est ma pile atomique. Ouais. Enfin, en dépit de la monumentalité apparente de ses fantasmes, la forme prospectus apparaît à Barthes comme un moyen paradoxal de tempérer, de modaliser l'adresse du discours intellectuel. D'être prospective, l'écriture se fait invitation, incitation. Elle propose plus qu'elle n'impose et offre le projet, du coup, à une forme d'appropriation collective. L'écriture, affirme l'auteur, n'est jamais monumentale, c'est une proposition que chacun viendra saturer comme il voudra. Bon, alors, l'examen de ces trois fragments, hein, que je viens de passer en revue, invite, il me semble, à lire Roland Barthes par Roland Barthes comme une sorte de livre des projets. Ce, au moins, à trois titres. Premièrement, autoportrait de l'essayiste en projet, hein, confère projet d'un livre sur la sexualité. Deuxièmement, autoportrait de l'essayiste par ses projets, hein, confère projet de livre. Et troisièmement, autoportrait de l'essayiste par la mise en lumière d'un rapport tendanciellement idiolectal à la pratique prospective. C'est pas seulement qu'on fait l'autoportrait de soi en montrant ses projets, mais c'est aussi que le fait même de faire des projets, d'en multiplier les annonces, devient un trait caractéristique de l'autoportrait. Alors cette lecture n'est pas exclusive, bien sûr, d'autres voies d'entrée dans l'ouvrage de 75, mais elle me semble importante car elle met au jour un effort de Barthes pour conjurer l'un des risques majeurs liés à son entreprise autoportraitiste, risque anticipé et discuté dès le séminaire du lexique de l'auteur, 73-74, puisque, à nouveau placé sous le signe d'Orphée, mais en vertu cette fois de l'action dissolvante, corrosive, de son regard, le principe de l'écriture de soi apparaît, on le sait à Barthes, simple comme une idée de suicide. Dimension mortifère qu'exacerbe la collection des écrivains de toujours, où paraît l'ouvrage, portant à voir ce dernier comme une sorte de mausolée de son auteur. Face à cela, face donc à la dimension projective du livre, du livre offre à Barthes l'occasion de dynamiser, de revitaliser son ouvrage, qui dès lors ne se tisse plus seulement au fil de l'œuvre passée, mais aussi au fil de l'œuvre à venir. Et de ce point de vue-là, déplace un petit peu le cahier des charges de la collection des écrivains de toujours dans laquelle Barthes publie son livre. Alors, de cette inquiétude du dernier mot, de cette écriture de soi simple comme une idée de suicide, de cette inquiétude donc témoigne tout particulièrement l'épigraphe conclusive du livre, qui, intitulé « Et après » et reproduisant l'écriture manuscrite de Barthes, c'est un fait qui me semble important, énonce le petit dialogue suivant. « Quoi écrire maintenant ? Pourrez-vous encore écrire quelque chose ? On écrit avec son désir et je n'en finis pas de désirer. » Alors ce court échange, qui fait pendant à l'épigraphe inaugurale que j'ai déjà citée, est un petit peu plus intéressant qu'il n'y paraît peut-être, puisque tout en reconnaissant le risque inhibiteur de son ouvrage, Barthes ouvre celui-ci sur un avenir appelé par la permanence, par la résilience de son désir d'écrire. Mais toutefois, il convient de noter qu'une telle protestation vitaliste est suscitée par l'intervention d'une voix tierce qui somme l'auteur, qui enjoint à l'auteur de rendre compte de ses projets d'écriture, de sa capacité à remettre l'œuvre en marche après pareil ouvrage. Cette intervention extérieure, dont la prise en charge par l'écriture manuscrite dit peut-être à quel point elle est intégrée, intériorisée par l'auteur, introduit comme un vent d'hétéronomie au moment de l'envoi du livre. Le discours du projet participe bien, depuis au moins le XIXe siècle, d'un imaginaire de l'autonomie créatrice, que l'essayiste traduit ici dans le langage moderne des humeurs, du désir. Reste que ce discours n'en répond pas moins à une forme d'injonction sociale à répondre de ses projets. Pour reprendre les analyses de Bourdieu, le projet créateur de l'écrivain, même dans sa forme la plus autonomisée, demeure tributaire des interactions dont il est l'objet dans le champ et reçoit toujours un certain sens social, ce que Barthes ici, d'une certaine manière, met en scène et occulte tout à la fois. C'est cette hétéronomie à laquelle les prospectus barthésiens sont en but que je voudrais maintenant explorer plus avant, dans le souci de rendre sensible une certaine part des autres dans le discours du projet. On a vu un tout petit peu une part des autres en aval du projet, avec ce projet comme proposition, mais les autres ont aussi une part en amont. C'est à ça que je voudrais maintenant m'intéresser. J'ai appelé cette partie « Le discours de projet à l'épreuve de l'hétéronomie, de point nihil nisi propositum ». Voilà, un petit peu de latin. Alors, livre des projets, Roland Barthes par Roland Barthes, est aussi un livre de commande, dont on sait que Denis Roche a suggéré l'idée à l'auteur lors d'une réunion du Seuil et pour lequel ce dernier a reçu immédiatement ou rapidement une avance sur recette. Il va de soi que Barthes s'est approprié personnellement cette proposition en forme de boutade, consistant à prendre au pied de la lettre le titre de la collection, X par lui-même. De ceci, il a longuement rendu compte lors de son séminaire à l'EPHE, et le statut d'apax de son livre au sein de la collection en témoigne. Il y a tout de même un paradoxe très net dans cette manière qu'a Barthes de mettre en scène sa compulsion de projet, tandis qu'il aura produit la grande majorité, voire la quasi-totalité de son œuvre sur commande. Pour utiliser une notion théorisée par Jérôme Mézos dans le cadre de la sociologie de la littérature et de l'analyse du discours, on peut observer ici un phénomène de posture, terme qui ne connote rien de dépréciatif, de moral ou de psychologique, mais qui qualifie simplement la manière dont un auteur occupe une position dans le champ. On dira donc que Barthes, dans son autoportrait de 1975, occupe, en écrivain à projet, une position d'essayiste à commande, tout comme on a vu tout à l'heure, sur un mode élégiaque, l'auteur des essais critiques occupait une position de critique en romancier en sursis. Ici et là, le projet est l'occasion de figurer une aspiration ou une prétention à l'autonomie, dans l'espace même où son écriture est soumise à des formes variables de dépendance, et ne saurait partant relever de ce seul désir matriciel qui est évoqué à la fin de Roland Barthes par Roland Barthes. En posant cela, je ne cherche pas à mettre en lumière une stratégie quelconque ou un accès de mauvaise foi dans la présentation de soi barthésienne. Il s'agit plutôt de donner du relief à ces énoncés programmatiques disséminés dans l'œuvre et rassemblés, analysés dans l'autoportrait de 75 pour montrer qu'ils sont le siège, ces projets, d'un effort pour affirmer, pour faire valoir ces initiatives et ces fantasmes d'écriture à l'épreuve et dans le contexte d'une certaine hétéronomie du discours de l'essai. S'il est vrai que la vertu dilatoire du projet est, comme le dit Barthes, l'écriture même, on mesure que la forme prospectus engage rien moins que la littérarité du discours intellectuel, dont la reconnaissance ne saurait être gagnée d'avance, mais se conquiert et se construit surtout, se signifie pas à pas, livre à livre, projet à projet. Alors il faut ici souligner que Barthes est loin d'être resté silencieux sur sa pratique d'essayiste à commande. Il s'en est au contraire plusieurs fois expliqué lors d'entretiens, notamment dans les années 70. Par exemple, lors du grand entretien télévisé de 71 avec Jean Thibaudot, il répond comme suit à la question de savoir, c'était la question de Thibaudot, ce qui programme son travail. Qu'est-ce qui programme votre travail ? Il répond, je n'ai jamais écrit qu'un seul texte pour rien. Mon premier texte, celui que j'ai montré à Nadeau vers 46, qui n'a pas été publié, mais qui a déterminé les demandes suivantes. À part ce premier texte zéro, dont tous mes autres textes ont été écrits à la demande, lorsqu'on me laisse libre du sujet, ou à la commande, si l'on me donne le sujet, ce dont je ne me plains pas forcément. En somme, j'ai toujours écrit pour répondre à l'incitation de quelqu'un. Ainsi observe-t-on que les essais d'un côté, les entretiens de l'autre, enfin les livres d'un côté, les entretiens de l'autre, tendent dans ces années à produire des régimes différenciés de la présentation de soi. Loin d'être désaffecté, la commande dont Barthes fait ici l'éloge demeure une pratique mêlée de désir, à la nuance près que ce désir ne jaillit pas de la seule personne de l'auteur, comme les autobibliographies et les prospectus de Roland Barthes par Roland Barthes semblaient le laisser entendre. Au contraire, il réclame ce que Deleuze et Guattari ont nommé un agencement, une configuration, autrement dit, suivant laquelle le désir du sujet est toujours déjà relié à, affecté par, branché sur le désir de l'autre. Dans sa réponse, Barthes précise que ces demandes et commandes auxquelles il se soumet facilitent sa production sans, je le cite, « exclure en rien la jouissance de l'écriture, ni même ses rêves ». Et ces rêves, c'est ce qu'on trouvera dans Roland Barthes par Roland Barthes. Donc vous voyez que tout en les articulant l'une à l'autre, il en vient à distinguer entre écriture à projet et écriture à commande. C'est ce qui suit le passage que je viens de citer, en disant son souhait, encore velléitaire, je le cite, « d'écrire un texte libre conçu en dehors de toute demande, si loin qu'on en recule l'origine, et par là même s'ouvrant, je continue à citer Barthes, à des expériences de forme. Ce n'est jamais une forme que l'on vous demande, on n'est plus au temps où l'on vous demandait un sonnet. » On retrouve ici, dans ces lignes, cette communication aliénée que déplorait la préface aux essais critiques. Le problème de la commande n'est pas l'intervention de l'autre dans l'occasion ou l'orientation de l'écriture, mais c'est plutôt l'objet, le point de fixation de ce désir de l'autre qui engage plus des contenus, des engagements, que cette responsabilité de la forme en quoi Barthes avait vu l'enjeu même et le plaisir même de l'écriture. Néanmoins, au moment de cet entretien, l'essayiste préfère à tout prendre le régime de la commande à celui du projet libre, parce que ce dernier est marqué au sceau coupable narcissique de l'imaginaire. Mot que Barthes entend dans ses années, depuis le tournant des années 70, dans un sens lacanien, et dont il dénonce les manifestations dans le discours savant et dans le discours de la littérature. Je le cite, « Ces rêves d'écriture ne sont pas irréalisables. Ce qui leur fait obstacle, c'est plutôt la conscience finale qu'ils dépendent d'un imaginaire et que la vérité de mon travail se place plutôt là où une demande assez précise, issue de la collectivité telle qu'elle est, une commande, si l'on veut, introduit dans mon programme, immédiatement et en quelque sorte naïvement, sans relais, sans alibi, sans transcendance, le désir de l'autre. Condition au prix de laquelle, compte tenu sans doute de ma propre structure névrotique, je puis rester à même le signifiant et ne pas me décevoir trop tôt de son perpétuel sursaut. C'est dans ce très court sursis que j'écris. Alors ce texte est vraiment intéressant et d'ailleurs il me semble que c'est une sorte de première version du fragment plus tard de Roland Barthes par Roland Barthes, sauf que dans plus tard, Roland Barthes enlève toutes les références à la commande et les remplace par ses rêves d'écriture hein, dont il va dire le fantasme et voilà. Dans ce texte-là, hein, en 71, répondant à Thibaudeau, on voit donc Barthes formuler dans le langage des affects et de la psychanalyse lacanienne cette hétéronomie constitutive de la création que la sociologie de Bourdieu, par exemple, thématise en termes de champ et de sens social du projet créateur. Comme il le précisera plus tard lors du cours sur la préparation du roman, en se demandant ce qui peut conférer à l'œuvre à faire un caractère de nécessité, le désir de l'autre, comme il l'appelle, ne se confond pas avec le goût du public, hein, car il est, peut-on dire, deux fois individué. Désir de cet autre, désir particulier de cet autre pour mon écriture particulière. Donc Barthes reconnaît l'hétéronomie du projet créateur, mais refuse de la penser en termes sociologiques et de rapport au public, pour la penser en termes de désir et en termes de commande, c'est-à-dire de la commande d'un sujet pour moi, ce qui suppose une sorte de mise en circulation hein, du désir. Je cite la préparation du roman qui développe cette idée de nécessité. Nécessité de point, ce dont quelqu'un a besoin à un certain moment. C'est-à-dire, idée contraire à toute possibilité de marketing du livre, car idée fondée en finesse, fugacité et individualité, mais idée qui suffirait à justifier d'écrire. C'est page 262 dans la préparation du roman, ancienne édition. En 71, pour autant, Barthes ne dénonce ni ne refuse la dépendance relative qui est la sienne au sein du champ intellectuel. Il l'accepte comme un jeu, hein, c'est le mot qu'il emploie. En revanche, il ne peut, à ce moment, assumer l'image de soi impliquée par la formulation d'un grand projet individuel, libre de toute demande. Les lecteurs de Barthes savent qu'une telle position va évoluer au fil des années 70 pour donner lieu, dans les années 78-80, à l'annonce et à la délibération d'un grand projet de roman. Comme Mallarmé dans les années 1880, d'une certaine manière, Barthes, dans ces années, 100 ans plus tard, est alors non moins connu pour son œuvre publiée hein, que pour l'intention d'écriture notoire qu'on lui prête ou qu'il professe lui-même. Et qui, chez Barthes comme chez Mallarmé, hein, dès leur vivant, donne lieu à une forme de mythe qui va, à leur mort, se prendre les dimensions que l'on sait. Cette assomption progressive d'une aspiration à former des projets en dehors de toute demande accompagne, on le sait, l'affirmation graduelle de l'imaginaire en ces mêmes années. À l'autocritique de l'imaginaire d'auteur dans Roland Barthes par Roland Barthes succède la défense et l'affirmation de l'imaginaire amoureux dans les fragments de 77 et plus tard celle du deuil dans La Chambre claire. Dans cette perspective, la conférence du Collège de France de 78, hein, « Longtemps je me suis couché de bonheur » et le cours qui suivit pendant deux années peuvent être appréhendés, à mon sens, entre autres choses, hein, bien sûr, comme l'affirmation d'un certain imaginaire d'auteur, à condition de préciser que ce dernier caractérise moins la personne sociale de celui qui a écrit que celle intime et artisanale de celui qui veut écrire. Imaginaire du scripteur, donc, plus que de l'auteur, mais imaginaire quand même. Formé au miroir d'une littérature conversionnelle multiple, puisée chez Dante, Chateaubriand, Michelet et surtout Proust, la Vita Nova alléguée par Barthes le porte à se placer tout entier sous le signe du projet. Projet qui ne se décline plus au pluriel, comme dans les autobibliographies prospectives de Roland Barthes par Roland Barthes, mais au singulier, et dont la dénomination en forme d'antonomase, hein, le roman, dit le caractère totalisant. Un tel projet conversionnel ne prend malgré tout sens qu'à tâcher d'évacuer ou de dominer cette hétéronomie dont j'ai parlé, et qui n'est nulle part mieux reconnue et analysée que dans « Longtemps, je me suis couché de bonheur » et dans, surtout, bien sûr, la préparation du roman. L'œuvre projetée se substitue à la répétition aliénante des commandes et de leur format stéréotypé. Elle suppose d'une certaine manière de s'émanciper, de se dégager de l'œuvre passée et de la gestion que la société en demande. On retrouve alors cette valeur princeps et euphorique du nouveau, avec un grand N, hein, de l'aventure, déjà rencontrée dans les essais critiques. Je cite le cours sur la nouvelle édition du cours sur le roman. Le nouveau avec un grand N qu'on peut escompter, c'est seulement ceci, que la nouvelle pratique d'écriture rompe avec les pratiques intellectuelles antécédentes. Que l'écriture, la nouvelle écriture comme pratique, pas comme produit, se détache de la gestion du mouvement passé. Le sujet écrivain subit une pression sociale incessante, je peux vraiment en témoigner, pour l'amener et pour le réduire, si je puis dire, à se gérer lui-même. Une fois qu'on a écrit, ce que la société vous demande n'est pas du tout d'écrire du nouveau, mais de gérer ce que vous avez écrit. C'est-à-dire de gérer son œuvre en la répétant. Je connais bien cela, ce n'est d'ailleurs pas une critique, il faut accepter le jeu social tel qu'il est, mais je connais bien les demandes qui me sont adressées. Or, 9 fois sur 10, ce sont des demandes innocemment venues de la doxa sociale, de la masse sociale, qui visent à me faire répéter ce que j'ai déjà dit. J'ai déjà écrit, il y a plus de 20 ans, des mythologies, et ce qu'on me demande, ce sont toujours des mythologies. C'est évidemment cette espèce de ronron qui doit être interrompu. Il faut, à un moment dans la vie, lié à au certain âge dont j'ai parlé, décider si on va se mettre dans la gestion ou dans la novation, dans la production. Alors, dans ce passage, cité donc depuis la nouvelle édition du cours sur le roman est datée du 2 décembre 78, se fait jour un visage paradoxal et aliénant de la commande, qui tranche, hein, avec ce qu'on a vu en 71, et qui, on le voit, cette commande, hein, n'émane plus ici du désir individué dont j'ai parlé, mais d'une doxa sociale, d'une masse sociale indifférenciée. Si cette commande est paradoxale, c'est qu'elle ne demande pas à l'essayiste de s'adapter à des contraintes extérieures, mais de reconduire, d'imiter cela même qui est tenu pour fonder l'œuvre passée en originalité. On pense peut-être, enfin, je pense, aux pages d'À l'ombre des jeunes filles en fleurs, hein, consacrées à Bergotte, où le narrateur oppose au genre Bergotte, pastiché par tous ses plats imitateurs, la dynamique imprévisible de son style, qui suppose une novation permanente, née de la confrontation de l'écrivain avec les nouvelles impressions, les nouvelles circonstances qui se présentent à lui. Jusqu'à ce que, vous le savez, vieux et fatigué, Bergotte en vienne lui-même à faire du Bergotte. C'est l'expression de Proust. Ainsi pour Barthes, le comble de la commande, et qui s'accommode bien du mythe régulateur de l'autonomie créatrice, c'est de demander à l'écrivain d'écrire ce qu'il a déjà écrit. C'est de lui faire en quelque sorte commande de lui-même. Face à ce type d'injonction, face encore à toutes les tâches sociales ordinaires susceptibles de divertir de l'écriture, le discours du projet en appelle donc à une forme d'autonomie ou de libre initiative qui ne relève pas d'un état, mais d'un effort, hein, d'une tendance. Autre forme comble de la commande, diamétralement opposée à la précédente, le prospectus, dont on a commencé l'analyse ensemble, consiste d'une certaine manière à prendre le public à témoin d'une commande qu'on se passe à soi-même. Il engage, ce prospectus, à cet égard, quelque chose de l'ordre d'une promesse. Le 3 mars 1979, lors de cette première année de la préparation du roman consacré à la forme haïku et à la pratique de la notation, Barthes se réclame alors d'une devise latine qu'il a lui-même forgée, hein, qu'il a demandé à des amis latinistes de forger pour lui. Je ne crois pas qu'on trouve ça dans la littérature latine. Barthes se réclame, hein, d'une devise latine emblématique de cette tendance, hein, qui est donc « nihil, nisi, propositum ». C'est une formule ambiguë qui peut... J'ai demandé à des amis latinistes l'interprétation possible de cette formule. Barthes dit qu'on ne peut l'interpréter que dans le sens « rien sinon ce que je me suis proposé de faire », mais mes amis latinistes à moi me disent qu'on peut aussi l'interpréter dans le sens « rien sinon ce que l'on m'a proposé ». Voilà. Et je crois que moi-même, mon petit niveau de latin me le faisait déjà penser. Donc, on se doute que Barthes lève l'équivocité en faveur de cette seconde acception, rien sinon ce que je me suis proposé de faire. Mais on a vu dans les réponses de 71 qu'il n'était pas loin de promouvoir la première, rien sinon ce que l'on me propose de faire, rien sinon la commande. Plus encore que sa lettre, c'est le contexte où cette devise est mobilisée qui mérite ici d'être mis en avant. Barthes la formule lors d'un développement sur l'activité de notation et la disponibilité qu'elle réclame dans la vie ordinaire de l'écrivain. Il dit alors, dans une courte digression, avoir un temps pensé la porter en tête, à l'en-tête, de son papier à lettres. Invoquée dans l'espace de la correspondance, dans le moment donc où son écriture est dépendante, tenue de répondre aux demandes et aux obligations sociales ou amicales, la formule « nihil nisi propositum » est loin de dire une souveraineté irréductible de l'écrivain sur la conduite de son œuvre. Elle est plutôt le nom d'une difficulté, d'un problème. Elle désigne, sur le terrain même de l'hétéronomie, un effort pour reprendre la main sur ses investissements d'écriture. Alors, conclusion, dernière partie, ce sera rapide, que j'ai appelé « Entre conversion et clandestinité, Barthes en position d'amateur ». Donc, au terme de ce rapide parcours, rapide peut-être pas pour vous, mais par rapport à l'ampleur de la question, dans l'écriture potentielle de Barthes, j'espère avoir suggéré l'intérêt qu'il y a à prendre la mesure de ce discours de prospection, de cette prospectographie, on pourrait l'appeler comme ça, dont Barthes est un praticien et un penseur décisif, mais dont on se doute qu'il n'est pas le seul représentant. Si je n'ai fait qu'effleurer le dossier central du projet romanesque des dernières années, c'est faute d'espace, bien sûr, c'est parce que c'est sans doute la chose la plus connue sur cette question. Mais c'est aussi dans le souci de mettre celui-ci en perspective dans le temps long de la carrière de l'essayiste. Barthes, autrement dit, n'a pas attendu Vita Nova et la préparation du roman pour annoncer et discuter ses projets d'écriture. La dramatisation qui accompagne l'annonce de cet ultime projet n'en est à cette aune que plus sensible, plus prégnante. Composante avec les grandes pensées ou valeurs du projet disponible à son époque, d'un certain progressisme ambiant dans les années 60 à la mystique blanchotienne du livre à venir, en passant par l'existentialisme sartrien, Barthes aura fait du prospectus un lieu où fantasmer, un lieu où délibérer et exposer quelque chose comme une identité prospective, qui pourrait faire pendant à l'identité narrative développée par rigueur dans temps et récit et dans soi-même comme un autre. Au gré de ses prospectus, Barthes livre un portrait virtuel de soi en écrivant un projet qui entre en tension avec sa pratique de la commande, tour à tour déplorée, masquée, affirmée ou combattue. Par là, donc par la lecture des énoncés prospectifs ou métaprospectifs de Barthes, cette lecture incite à dépasser l'opposition classique entre Sartre et Bourdieu sur la question du projet créateur de l'écrivain. Ce premier voyait dans le projet un fondement, un principe générateur unifiant une vie et une œuvre sous la forme, je cite la formule célèbre de l'être et le néant, d'un absolu non substantiel, Bourdieu dénonçait chez le philosophe la formulation archétypique d'une illusion, d'une croyance collective rendue nécessaire par sa fonction régulatrice au fonctionnement du champ littéraire. À considérer, comme j'ai essayé de le faire, le projet sous l'aspect de son discours, dans cette perspective donc plus compréhensive, on mesure que le projet créateur n'est ni forcément une croyance, ni encore moins bien sûr une réalité, mais qu'il est plutôt un ensemble d'actes contingents, situés, variables, on l'a vu selon le temps, mais aussi variables selon les lieux. Barthes ne dit pas la même chose dans ses entretiens et dans ses livres. Et il y a là autant de gestes, comme les nomme Barthes, qui donnent à voir et réfléchissent la prise mouvante et fragile du sujet sur son avenir d'écrivain. Pour conclure, je voudrais évoquer la part de clandestinité ménagée par les prospectus de Barthes, qui mériterait donc cette part de clandestinité, une étude à part entière. Paradoxaux, les prospectus barthésiens ne le sont pas seulement parce qu'ils ont longtemps été formulés dans le cadre hétéronome de la commande, dont ils masquaient ou requalifiaient la pratique, mais aussi parce qu'au fond, Barthes a le plus souvent maintenu ses projets dans une sorte de silence, de mystère. Il y a une sorte d'art de la diversion dans la liste des projets de Roland Barthes par Roland Barthes. De ce point de vue, le cours sur le roman manifeste la conscience qu'a Barthes d'avoir franchi un pas, d'avoir pris un risque, d'avoir changé de manière. Alors je cite un passage un peu long, mais qui me semble intéressant et révélateur de ceci. On peut me dire, on me l'a déjà dit, en annonçant publiquement, c'est le cas de le dire, que vous allez faire un roman, vous prenez un risque énorme. On retrouve ça dans... c'est peut-être... Barthes pense peut-être ici à Jeunette qui raconte ça dans Bardadrac. Il a dit à Barthes, vous dites à tout le monde que vous faites un roman, mais c'est... Vous vous rendez compte, si vous ne le faites pas, c'est voilà, vous prenez des risques. Et Barthes lui aurait répondu, j'ai confiance. Mais ce n'est pas son discours ici. Ce n'est pas ce qu'il dit. Donc je reprends la prosopopée de Barthes. On ne m'a pas bien précisé quel risque, mais je le sens très bien, ce risque, et je dirais que c'est un risque magique. En effet, dire à l'avance, c'est bien connu, dans toutes les magies du monde, c'est détruire. On retrouve la formule d'Alix Cléorobeau. Nommer trop tôt, c'est attirer le mauvais sort. C'est la fable de la peau de l'ours. Je suis en train de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, d'avoir tué le roman. D'ordinaire, je prends ce risque d'annoncer ce que l'on va écrire alors que ce n'est absolument pas commencé, ni même vraiment projeté au sens technique du terme. Je prends donc ce risque très au sérieux. Je m'empêche toujours de parler du livre que je vais faire, bien que ce soit toujours la question, qui part d'ailleurs d'un très bon sentiment. Qu'est-ce que vous allez nous donner maintenant? Qu'est-ce que vous allez écrire? Qu'est-ce que vous écrivez? Je peux parfaitement répondre à cette question si je n'ai pas l'idée d'écrire ce que je dis que je vais écrire. Mais si vraiment je vais l'écrire, si c'est dans le réel de ma pratique à venir, je réponds d'une façon, en général, extrêmement évasive. Or, ici, ce n'est pas le cas. Pourquoi, cette fois-ci, prendre ce risque et, pour ainsi dire, provoquer les dieux? Parce qu'il fait partie de la mutation dont j'ai parlé, que j'ai fantasmée sous le nom du milieu du chemin de la vie. Cette mutation implique en effet la considération d'une sorte de « plus rien à perdre ». Je prends le risque d'annoncer le roman que je veux faire parce que je considère, à tort ou à raison, mais sincèrement, que je n'ai plus rien à perdre. Plus rien à perdre n'est pas du tout un mot de desperado, mais plutôt la recherche d'une opposition, d'une résistance réfléchie à cette expression, cet idiotisme si française, qui semble hanter toutes les conduites françaises, perdre la face. À considérer ce passage, prononcé lors de la séance du 16 décembre 1978, on voit que l'essayiste est confronté à une sorte de double bind, d'injonction contradictoire, puisqu'à l'injonction de rendre compte de ses projets, qu'est-ce que vous écrivez maintenant, s'ajoute ici celle de l'éther. Pourtant, malgré ce pas, philosophique peut-être, mais projectif, c'est sûr, que Barthes dit avoir franchi, malgré cette ultime annonce en forme de « plus rien à perdre », on sait que le professeur du collège ne dévoilera rien de son projet réel et préférera simuler la position de celui qui veut écrire un roman. Autrement dit, l'annonce procède ici, à l'inverse des prospectus et autobibliographies prospectives passées, puisque, tandis que celle-ci disait « l'objet du livre à venir, mais taisait ou virtualisait l'intention de l'écrire », Barthes à présent déclare, emphatise sa décision, mais occulte très largement son sujet, sa matière, ses plans, son avancement. Du discours de méthode qui occupe alors les séances du cours et délibère des étapes du projet d'écrire à travers les écrits personnels, la correspondance de Tolstoï, Proust, Kafka et d'autres, il se dégage alors, étrangement, un éthos d'amateur, au sens très positif que l'essayiste prête à ce terme. L'amateur, en effet, est pour Barthes celui qui ne montre pas. Celui qui cultive amoureusement son art, sans souci de faire œuvre ou d'exposer son image. Il emblématise un rapport émancipé à l'écriture, où les rôles de producteur et de consommateur se confondent, permutent, où la technique s'exerce et se réfléchit innocemment, hors des valeurs professionnelles de perfection ou de virtuosité. Que le discours du projet puisse finalement se reconnaître comme une prosopopée de l'amateur, voilà qui en dit long d'une part sur cette parole indirecte et clandestine qui est paradoxalement celle du prospectus, quels que soient ses airs tapageurs, mais voilà qui atteste aussi, d'autre part, un effort pour extravertir cette figure discrète de l'amateur et parvenir à donner voix, par son biais, à cette forme de réflexivité heureuse, aventureuse, que j'évoquais pour commencer sous le nom de projet et dont le fantasme anime l'œuvre entière de Barthes. Je vous remercie.